Je vais laisser la parole à Benoît Moreau, qui, dès 1998, dans le cadre de ses activités à la Fédération d'imprimerie, a travaillé au déploiement d'imprimes verts. Après, il a été formé à la méthode du bilan carbone de l'ADEME. Il a suivi pas mal de nombreux bilans carbone dans l'imprimerie, la papeterie. Et à côté de ça, Benoît aide également des petites et moyennes structures à valoriser et améliorer leurs pratiques éco-responsables. Et voilà, donc là, dans sa présentation, Benoît va nous montrer qu'il existe des actions très concrètes qu'on peut mettre en place. Et je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis tout simplement consultant spécialiste de la problématique environnementale de la chaîne graphique et je travaille en France et beaucoup à l'étranger. Alors l'idée qu'on a eue avec Emmanuel, c'est de se dire, bah voilà, et puis avec Albert, voilà, vous allez repartir vendredi, qu'est-ce que vous allez vous dire, oui, il va falloir avancer, qu'est-ce qu'on fait? Donc ma présentation est faite pour avoir un peu une feuille de route, vous dites, voilà, sur l'aspect environnemental, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc, en gros, par principe déjà, quand on va parler d'éco-conception, la première étape de l'éco-conception, c'est de s'assurer que le livre va être lu, quoi, le livre, l'ouvrage va être lu. D'accord, on rentre dans une, là je vais revenir beaucoup là-dessus, sur une économie de la sobriété. Donc vraiment cette première étape, c'est s'assurer que ça va être lu. En gros, moi j'estime que sur la production, les ventes de papier, hein, donc à une époque on doit être à 2 millions et demi de tonnes en France aujourd'hui en termes de consommation de papier, je parle que papier graphique, hein, les autres je ne connais pas, mais papier graphique, en gros on a une perte en ligne de 50%. Vous savez, on parle souvent de la fourche à la fourchette, on a 30% de perte. Là on peut dire de la forêt ou du pulpeur au lecteur, on a 50% de perte. C'est-à-dire qu'on est dans une économie où pour livrer une tonne de papier à un lecteur, on est obligé d'en produire deux. Donc déjà, ça c'est vraiment un point. Donc là, je mets tout. Hein. C'est-à-dire les passes, les rognes, la surproduction, la non-qualité, etc. Les invendus, le pilon, tout ça, etc. Mais par exemple, le pilon, souvent on parle, hein, quand vous regardez au niveau officiel sur le SNE, on va parler de 15% de pilon. Il faut savoir que dans une imprimerie, vous avez un minimum de 30% de perte. D'accord, puisque et ça s'explique, hein, c'est les pertes de calage, les pertes de façonnage, les pertes liées à la reliure, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le premier challenge, c'est se dire pourquoi j'imprime. Ça paraît bête, mais c'est un premier point. Après, donc, quelles caractéristiques à challenger quand on est au niveau de la conception? Bah, c'est déjà le format. Je suis complètement d'accord avec les intervenants précédents. Il faut éviter les fichiers Excel, il faut revenir dans les ateliers, il faut revenir sur la relation. Et c'est-à-dire que si vous allez définir votre format tout simple en disant bah, tiens, finalement, je ne sais pas, je vais quitter le A4 et je vais changer de format. Si vous ne faites pas cette démarche avec votre imprimeur, voire votre papetier, vous risquez tout simplement d'avoir exactement la même consommation de papier, mais vous avez juste augmenté les runs de façonnage. Hein, donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que la définition du format, ça se fait vraiment avec son imprimeur. La définition du grammage, il faut tout challenger. Moi, j'ai des clients, on est toujours en 135 grammes de couverture, 110 grammes de cahier, et on dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et bah oui, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Bah oui, mais on pourrait peut-être se renseigner par rapport à ça. Et donc justement se renseigner aussi avec les disponibilités par rapport au papier. Hein, c'est pas le nombre d'exemplaires, évidemment. Hein, je vais revenir sur la distribution. C'est combien réellement j'ai besoin d'exemplaires. Alors ça, c'est tout le challenge. Hein, si j'étais capable de vous sortir une règle qui vous permettrait de déterminer le nombre d'exemplaires imprimés idéal, vous serez content. Donc ça, c'est important. L'ancrage. Hein, donc avec attention, et ça c'est vraiment, j'insiste beaucoup, je pense qu'il faut remettre de la technique, il faut remettre de la science là-dessus. Par exemple, l'ancrage, on peut dire comme ça, j'ai déjà vu des publications, dire bah oui, on va utiliser juste deux couleurs, d'accord, et on va prendre une teinte directe. Hein, donc on va prendre du noir et une teinte directe. La teinte directe, il faut savoir, donc le fameux Pantone dont on parle, donc qu'on va opposer à la quadrichromie, notamment en offset. Oui, vous allez consommer moins d'encre, mais il faut voir que dans les ateliers, si vous prenez une teinte directe, ça veut dire que ça va être une production spéciale, c'est-à-dire qu'on va avoir même a priori une surconsommation en fait de la production, parce que même si vous avez besoin que de 2 kilos, ben, l'imprimeur il va vous commander un batch de 5, et puis après ça veut dire qu'on va faire un nettoyage machine supplémentaire, etc., etc. Donc avec une surconsommation justement solvants de nettoyage, tout ça. Donc, il faut revenir là-dessus. Et là, il faut vraiment penser à travailler avec son imprimeur. Un point qui vous concerne tous à partir de 2025, c'est important, c'est les fameux moches MOA. Vous avez peut-être entendu parler, ça va concerner le livre en France. C'est-à-dire, c'est l'interdiction d'utiliser des huiles minérales dans les encres que vous utilisez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre a toujours réussi à éviter toutes les réglementations applicables à part la norme jouée. Mais là, il n'a pas réussi. Et ça, c'est très intéressant. Le principe, c'est qu'on a des encres minérales dans les encres offset, pas en feuille, en IT7 notamment, quoi, en rotative, ça peut concerner certains d'entre vous. Et quand on va recycler justement ces livres, ces huiles minérales vont rester en fait accrochées aux fibres. Et si on utilise ces fibres pour faire des cartons d'emballage notamment, ben, ces huiles minérales vont se retrouver dans les aliments comme le riz, les lentilles, etc. Et là, on est vraiment en plein dans l'économie circulaire, c'est très intéressant. Pensez à leur hulure. Hein, souvent, on va s'apercevoir que le poids de la colle est supérieur au poids de l'encre. Et donc, on va avoir cette obsession sur l'encre, mais on peut se dire, bah, tiens, sur la colle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Finition aussi en termes de pelliculage. Alors, je n'ai rien, j'ai rien contre le pelliculage, mais il faut qu'il ait du sens. Hein, c'est-à-dire qu'on va pelliculer si, effectivement, ça va permettre d'augmenter la durée de vie d'un document ou pas. Mais s'il n'y a aucune raison, inutile de le faire, etc. Donc, vraiment, il faut vraiment challenger ça. Je vous dis, dans le train, vendredi, vous aurez la présentation, clac, clac, vous pouvez vous dire, tiens, où est-ce que j'en suis là-dessus? Un petit point, c'est les critères d'écomodisation de Citeo, même si le livre n'est pas concerné par Citeo. Ben, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a eu des critères où on va vous dire, ben, si vous êtes bon, donc bon au sens de Citeo, si vous avez du papier recyclé, vous allez payer une contribution de moins 10%. En revanche, si vous mettez des vernis UV, si vous mettez du pelliculage, tout ça, vous allez payer plus 5%. Et donc, c'est assez intéressant comme guideline pour définir ce que vous voulez. Sur le papier, alors, un truc, c'est si vous voulez commencer à faire de l'éco-conception au niveau du papier, arrêtez d'acheter un offset couché 80 grammes. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut que vous achetiez, c'est par exemple un magnéo naturel, Sapi, produit à gras de corne. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire d'éco-conception si vous ne connaissez pas l'origine de votre papier. Alors, j'ai conscience, ce n'est pas toujours évident, parce que ce n'est pas vous qui achetez le papier, généralement, mais il faut vraiment challenger son imprimeur là-dessus. Recycler, certifié FSC, certifié PEFC, l'idée, c'est vraiment à vous de voir. Je dirais, c'est plus par rapport à la durabilité et la qualité que vous attendez entre un recyclé ou un certifié, mais au moins des trois. Comme je vous disais sur le grammage, vous voyez justement les disponibilités, ne fixez pas le grammage et puis après dites-vous, bah tiens, est-ce qu'il existe sur cette catégorie? Donc essayez de voir avant. Surfaçage, surfaçage, c'est assez important. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a des papiers, alors notamment des papiers recyclés, j'en ai vu, qui sont composés à 30% de fibres recyclées. Et en fait, il a tellement été blanchi que vous avez pratiquement 60% de charge. Donc de charge, de kaolin, de binder, de finder, etc., etc. L'empreinte carbone, pensez bien, si vous voulez optimiser l'empreinte carbone, c'est il faut voir le couple, les émissions qui sont liées à la production et les émissions qui sont liées au transport. C'est-à-dire que d'un point de vue carbone, attention, là je parle vraiment uniquement environnement et carbone, d'un point de vue carbone, il peut parfois être beaucoup plus intéressant d'acheter un papier qui vient de loin, d'accord, mais avec une faible empreinte carbone d'un point de vue de production, plutôt qu'acheter un papier de proximité, mais qui aura une empreinte carbone plus forte. Donc, il faut vraiment voir les deux. Et là, attention, après, le choix, et c'est là où ça va être intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il faut sortir du truc en se disant, est-ce que ça a du sens quand même d'acheter du papier qui vient du fin fond de la Finlande? Après, c'est autre chose, alors qu'on a peut-être l'équivalent en Italie, etc. Et puis, vous voyez bien les engagements environnementaux des producteurs. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que le but du lieu, les accords de Paris, tout ça, il faut qu'on réduise. C'est vraiment un projet collectif. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est pas spécialement d'avoir en fait de choisir un papier avec une empreinte carbone minimum, non, ça va être de choisir un papier pour lequel le producteur s'engage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certaines papeteries qui ont des facteurs d'émissions qui sont absolument dégueulasses, mais on sait qu'il y a des programmes de réduction et ils sont vraiment sur la bonne voie pour respecter les accords de Paris. Et ça me semble plus intéressant de travailler avec ces gens-là et de les accompagner plutôt que de leur dire non. Juste, vous avez deux exemples, c'est il existe de l'information. C'est-à-dire que si vous avez donc les paper profiles, les carbon profiles, et c'est un peu ce qui fait la différence entre la version papier et une version numérique, c'est que nous, on sait. Dans le papier, on sait, on comprend ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des visites de forêt, de papeterie, de production de pâtes, d'imprimeur, de production de plaques offset, etc., etc. Je sais comment ça se passe, on sait comment ça se passe. D'accord ? Et donc, on a de l'information. C'est la différence par rapport au numérique aujourd'hui, c'est qu'on est un peu dans le vent. sur l'impression. Donc les certifications, hein, les certifications et les imprimeurs. Donc, alors imprime vert, c'est vraiment le minimum, minimorum, mais ça reste intéressant hein, en termes d'engagement d'imprimeur. J'irais plus, si vous avez un imprimeur qui n'a pas imprime vert, bah, on peut se demander pourquoi. Hein. Tamalcalc, c'est-à-dire que les imprimeurs sont capables aujourd'hui d'estimer l'empreinte carbone de ce qu'ils vous fournissent. Et surtout, c'est d'estimer, mais en vue de réduire, hein, toujours. Et puis, donc, on a différentes actions, print éthique, je vous les mets pour mémoire. Procéder, hein, donc penser aussi avec les articulations, hein, donc on peut lancer quelque chose évidemment en offset et puis faire un retirage en numérique, ça peut toujours être intéressant. Pensez bien à la perte papier, donc pour optimiser. Hein, pour tout vous dire, là je viens de travailler, alors c'est pas secret, sur la revue, il y a une nouvelle revue pour SEA qui va sortir là bientôt. On s'est aperçu que au numéro 0, on a une perte papier de 45%, parce que tout simplement le format n'est pas complètement optimisé et surtout l'imprimeur n'a pas eu le délai pour acheter justement sur fabrication. Et donc, on sait que si justement le CEA s'engage à long terme avec cet imprimeur, à ce moment-là, l'imprimeur va pouvoir acheter du papier à un format mieux adapté et cette perte de 46% va passer à 22%. Hein, donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de travailler avec son imprimeur là-dessus. La localisation, donc toujours pensez bien, pensez pas uniquement imprimeur, hein, c'est vraiment le triptyque, c'est d'où vient le papier, où j'imprime, où je stocke. C'est comme ça qu'on va pouvoir raisonner sur justement ces histoires de localisation. C'est pas je fais bien parce que j'ai un imprimeur de proximité. Non, là j'ai fait toute une étude sur le Grand Est. J'ai un Grand Est autour du livre. On disait on va peut-être sectionner des imprimeurs justement locaux, hein, donc région Strasbourg, etc. Bon, on s'aperçoit que toutes les zones de stockage de livres sont en région parisienne, quoi, la majorité. Donc que ce soit les Belles Lettres en Normandie, la Sodis, etc. En Île-de-France. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette vision globale. Et puis, challenger vos imprimeurs. C'est-à-dire qu'il y en a marre, les imprimeurs ont tendance... Alors, c'est eux qui me nourrissent, hein, je les connais depuis longtemps, donc je me permets de le dire parce que je les aime, mais ils sont quand même un peu difficiles à bouler de temps en temps. Il faut vraiment les brusquer un peu pour savoir ce qui se passe. Distribution. Alors, ça, sur la distribution, pensez... donc, il y a une grosse étude en ce moment qui est assez intéressante, c'est tirage court ou stockage long. Ça, c'est toujours, toujours intéressant. Et là, il faut, pour prendre la décision, c'est vraiment raisonner en coût global. Et quand je parle de coût global, c'est à la fois financier, hein, mais aussi environnemental. Qu'est-ce qui vaut mieux? Parce que vous savez tous, on a abaigné hein, des imprimés. On en baigne toujours, hein, des trucs qu'on a surimprimés, tout ça. Il n'y a plus de durée. Et donc, cette mine de rien, ça vous a coûté. Ça vous a coûté, en fait, à la production, au stockage, etc. Il y a quelque chose alors, qui vous concerne un peu moins, mais je pense que aussi dans ces histoires d'environnement, parce que c'est un petit peu compliqué, c'est identifier justement votre combat. Moi, mon combat, c'est pas de transport d'imprimés par avion. C'est débile. D'accord, c'est absolument débile. Et donc, à chaque fois que j'interviens, justement, j'en parle, je dis il faut constituer des réseaux internationaux d'imprimeurs. C'est-à-dire que, par exemple, on s'aperçoit quand vous parlez à un éditeur, un gros éditeur, il dit non, mais de toute façon, moi, sur par exemple, le Québec, c'est bateau. On dit, OK, donnez-moi les données de la Sodis ou du D, et puis on va regarder. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours de la vie. Hein, donc là, c'est vraiment, et donc autant imprimer directement au Québec, là, typiquement. Et puis aussi, c'est réalisation d'une analyse fine de ces commandes, ça, parce qu'on s'aperçoit, alors peut-être moins pour vous, mais c'est plus sur le secteur privé, c'est que, tout simplement, à un moment, on va préparer une commande de 2 exemplaires, le lendemain de 3 exemplaires, etc. etc. Il y a des choses à optimiser. Et donc, pour conclure, 3 clés, alors c'est purement subjectif, hein. C'est à débattre. 1, il faut ralentir. Ça, c'est un truc, c'est fondamental. C'est, il faut ralentir. L'urgence, alors j'ai mis conduit souvent, mais c'est toujours, hein, conduit toujours, à augmenter ses impacts, que ce soit environnementaux, que ce soit sociaux, etc. etc. Ça, c'est, il faut apprendre à ralentir. Hein, et se dire, finalement, on est toujours dans le lieu, on est à 3 jours près, tout ça. Donc, finalement, non. On s'aperçoit qu'il y a des choses, il y a certainement des choses qui sont à 3 jours près, mais la majorité, quand même, ça peut attendre. Et si on attend, on va trouver des solutions. Il faut être fidèle. C'est peut-être pas spécialement l'horaire du temps, mais il faut être fidèle. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir demander à votre imprimeur de s'investir pour vous, de chercher des solutions, de réfléchir si vous papillonnez. C'est-à-dire que votre imprimeur, il a besoin de savoir que vous inscrivez dans le temps, que vous allez faire les choses avec lui. Et à ce moment-là, on va pouvoir, même chose pour le papetier, hein, et on va pouvoir trouver des solutions. Parce que les solutions sont toujours, toujours collectives. C'est-à-dire qu'on ne va jamais trouver la solution comme ça, même si on est nombreux aujourd'hui, on ne va pas trouver les solutions. Et puis, il faut monter en compétences. Ça, c'est vraiment important. Il faut accepter de passer du temps à lire, à se former ou à faire confiance à d'autres qui savent. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'en apprends. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui visitaient des imprimeries. On apprend toujours quelque chose. On va toujours voir un nouveau matériel. On va toujours trouver quelque chose. Et puis, donc, enfin, aussi, en conclusion, et ça, c'est un peu le problème de l'expérience qu'on a, c'est faut accepter qu'aujourd'hui n'est pas comme hier. Hein, c'est-à-dire que moi, c'est un peu le problème. Ça fait 25 ans que je fais ça. Parfois, vous avez des jeunes qui arrivent, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et puis, on a tendance à dire, ouais, mais attends, ça, ton truc, j'ai déjà fait il y a 15 ans, ça ne marche pas. Bah non, bah, peut-être que ça peut marcher aujourd'hui, parce que techniquement, on n'est pas, c'est pas les mêmes choses. Les mentalités ont évolué, tout ça. Et puis, surtout, c'est demain ne sera pas comme aujourd'hui. Et là, je peux vous dire, ça va bouger. Et d'un point de vue là, purement changement climatique, en fait, on a deux grosses options. Je reviens sur mon étude sur le Grand Est. On s'aperçoit que à schéma constant, on est incapable de respecter les accords de Paris. En gros, vous dites 5% de réduction par an d'ici 2030. À schéma constant, on ne sait pas faire. Donc, on a deux solutions. C'est soit, en fait, il va falloir renverser la table volontairement et reconstruire quelque chose derrière. Hein, là, je parle au niveau de l'industrie, la chaîne du livre, tout ça. Soit on va le subir. Et le subir, si on commence à le voir, ça va être bah, tout simplement la disponibilité du bois. Ça paraît bête, mais ce qui se passe là en ce moment au Canada, je suis sûr que d'ici quelques temps, on va avoir un truc. Oui, on a eu problème de pâte. Je comprends pas, la pâte, elle est pourtant européenne. Ah, ben non, et finalement, elle est canadienne aussi. Donc là, on va avoir des problèmes d'eau. Regardez d'où vient le papier. En France, notamment, on a beaucoup de papier produit en Italie et en Espagne. Donc là, avec des problèmes d'eau, etc. Donc on va être complètement contraint. Voilà, j'ai fini.